Merci beaucoup Catherine pour cette question, ces deux strophes si différentes, bah, qui nous mettent face à cette question de la vérité du moral. C'est vrai que quand j'y pense, Paul Ricoeur, dans soi-même comme un autre, quand il parle de la sagesse pratique, de la vérité due au moral, c'est cette question-là qu'il pose et qui est vraiment la question centrale. Et justement, moi je voulais commencer, j'ai intitulé mon exposé Nos liens qui libèrent, oui, mais la solitude. Je voulais commencer justement par la question de la solitude. Il me semble d'ailleurs qu'un des grands problèmes du mourir dans la société d'aujourd'hui, c'est qu'on meurt dans des sociétés où il y a beaucoup de solitude. On va revenir à cette question avec l'intervention de Mamadou tout à l'heure. Et donc, il me semble que les liens humains aujourd'hui sont déchiré et écartelé entre une servitude qui est même parfois une sorte de servitude volontaire, pas seulement au sens de la boétie, qui pour lui c'était une dimension politique, mais on pourrait dire dans toutes nos relations, on préfère renoncer à la déliaison, à l'émancipation, on renonce à la difficile articulation de la déliaison et du lien, notamment dans le consentement amoureux ou dans la suite des générations, parce que la suite des générations demande l'émancipation, par exemple. Et donc, non, il y a une sorte de matrice de servitude volontaire qui existe aussi dans nos liens, dans tous nos liens, et qui revient constamment. Bon. Mais de l'autre côté, il y a une solitude volontaire qui est non moins terrible. On préfère renoncer finalement à rencontrer autrui. On n'y croit plus. On est sceptique. On ne croit plus à la possibilité d'un lien libre, d'un libre attachement, d'un lien qui nous libère. C'est le nom d'une maison d'édition, Les liens qui libèrent. C'est une très belle idée de Bernard Maris, l'économiste, qui avait proposé cette idée, Les liens qui libèrent. Si vous voulez, voilà, on est, il me semble, dans ce scepticisme, il me semble que ce scepticisme, ce renoncement, cette solitude volontaire, on va dire, à quoi tout conduit, notamment à la forme de notre société, la forme du capitalisme, à certains égards, il me semble que c'est le plus grand péril aujourd'hui. Voilà, je le pose comme question de départ. Comment sortir de ce scepticisme dans nos liens? Comment transgresser ce scepticisme? Alors la première réponse que je dirais, c'est nos relations sont des chorégraphies. C'est-à-dire, en fait, c'est d'abord des gestes. On n'a pas des sentiments qu'après on exprime dans des actions. On a des actions qui génèrent du sentiment. La Rochefoucauld disait, on déteste ceux à qui on a fait du mal. On fait du mal à quelqu'un et après on le déteste. Les gestes sont importants. Les gestes produisent des sentiments. Et donc ils produisent du rapprochement, ils produisent de l'éloignement. Et il y a des jeux chorégraphiques entre la distance, la proximité, entre la ressemblance et la dissemblance. Je pense que c'est très important dans nos relations, de faire toute sa place au travail de la ressemblance, du rapprochement, et aussi au travail de la dissemblance, de ne pas se rapprocher trop vite, trop n'importe comment, justement, mesurer la distance, mesurer la différence, mesurer l'altérité, le respect, si vous voulez. L'autre excède toujours ce que je m'en figure. Bon. Donc d'un côté, oui, aimer l'autre comme soi-même, mais dans un sens d'empathie presque divinatoire, et d'autre côté, le respect et l'altérité. Je dirais que l'amitié, nos amitiés, sont toujours dans une sorte entre les deux, dans le rapport de la mutualité, du mutuel. J'aime beaucoup le mot mutuel. Comment est-ce qu'on installe une mutualité? Deuxième manière de transgresser ce scepticisme, peut-être plus importante, c'est de partager des joies. Bien sûr, partager des malheurs aussi, c'est important, mais partager des joies. Hannah Arendt disait que c'était encore plus difficile de partager des joies que de partager des chagrins, des douleurs, des difficultés. Partager l'expérience du monde. Hein, voilà. Bon. Et dès qu'on partage, on découvre qu'on n'est pas d'accord. On découvre qu'on partage en différent les uns des autres. On diffère ensemble. C'est presque mon mantra. Comment différer ensemble? Parce qu'on est ensemble, on ne peut être ensemble qu'en différant les uns des autres, mais en même temps, on ne peut être différent qu'ensemble. Ça veut dire quoi d'être différent tout seul? Ça n'a pas de sens, c'est ensemble. Et donc, je dirais, voilà, depuis les conversations les plus simples jusqu'aux plus amples, les plus profondes qui trament nos vies, hein, les conversations amoureuses, mais amicales, le dialogue des générations, hein, qui est si difficile, eh bien, il y a du différent. Il y a du différent au sens où on n'est pas sûr de se comprendre, on n'est pas sûr de... Et déjà, dans l'enchevêtrement narratif, tout à l'heure, justement, la vérité, on sentait bien que la vérité due au mourant est une vérité singulière, parce que c'est une vérité qui n'est pas seulement biologique, c'est une vérité narrative, qui se raconte, bon, qui rentre dans l'histoire d'une vie. Bon. Et donc, je dirais, voilà, dans l'enchevêtrement narratif de nos relations, chaque relation est déjà deux narrations. On peut raconter, on raconte au moins de deux manières différentes. Je dirais aussi qu'il y a deux manières de différer les uns des autres. Il y a une manière de différer entre égaux contemporains, et justement, parce qu'on est des contemporains, parce qu'on perçoit les mêmes choses, mais on les perçoit de manière différente. Et puis, il y a le décalage des générations successives. Ça me semble très important. Il me semble que, justement, ce qui répond à une génération pose question à la génération suivante. On n'a jamais fini, en quelque sorte, de ce décalage des générations qui montre que nos vies s'installent sur le théâtre de quelque chose qui est éphémère. Finalement, nos vies sont éphémères, mais il y a les générations qui se succèdent. On ne cesse de réinterpréter. Si je dois rentrer un petit peu plus, je me permets de rentrer un peu plus dans le premier type de thème de manière d'être, de différer ensemble, je parlerai volontiers de la conjugalité qui suppose d'avoir quitté sa famille parce qu'il n'y a pas de libre alliance sans déliaison possible. Hein, on va y revenir, il n'y a pas de lien sans déliaison et donc du coup sans réciprocité, mutualité. Bon, voilà, il n'y a jamais de table rase complète de ce qui précède, mais en même temps, pour rentrer en relation, il faut avoir quitté l'emprise des relations antérieures. À l'inverse, alors, la génération, elle n'autorise l'émancipation que par la reconnaissance de l'attachement. Être émancipé, c'est pouvoir se retourner en disant merci, en mesurant tout ce qu'on en a reçu. Et donc, mesurer la dissymétrie, en quelque sorte, entre le grand et le petit. Et justement, ne pas faire aux autres ce que parfois on nous a fait, justement. Il y a une asymétrie profonde. Alors, comment est-ce qu'on va articuler les deux types de liens? Il n'y a pas moyen d'arrêter ce bruit? Je ne sais pas ce que c'est, il y a un téléphone qui chante. Donc, comment est-ce qu'on articule ces types de liens? Vous voyez, j'en ai fait un peu l'exemple du lien entre des égaux qui demandent de la réciprocité et des liens inégaux entre générations qui demandent à respecter l'asymétrie. C'est-à-dire, mon rapport à mes enfants n'est pas un rapport symétrique. Et peu à peu, parce que les enfants vont s'émanciper, il va s'installer du mutuel. Mais au départ, on ne part pas de la mutualité. Et donc, il y a une articulation très délicate entre un rapport de symétrisation, de réciprocité, et un rapport d'asymétrie, un rapport de justice et un rapport d'amour. Et tout ça, c'est ça qui fait le tragique de nos liens. Et puis, dernière petite pointe, dans les générations, il y a ce qui meurt, c'est-à-dire les vies singulières qui meurent, et puis il y a ce qui continue, c'est-à-dire la vie qui enjambe la mort. Et je dirais nos milieux, nos traditions, nos cultures, justement, c'est le chevauchement entre la transmission de l'acquis, il y a quelque chose comme une des traditions qui se transmettent, et déjà même génétiquement, et puis la création de nouvelles combinaisons possibles, et donc avec de l'inédit. Et donc il y a à la fois de la répétition et en même temps du neuf. Et je pense que là aussi, il doit y avoir un équilibre entre la reproduction, entre la répétition, entre la tradition, entre la transmission, et puis l'innovation. On a besoin des deux. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir innovation. Ce qui est innovation a été... excusez-moi. Ce qui est tradition a été innovation. Et ce qui est innovation aujourd'hui, à son tour, sera une transmission, pourra être transmise. Voilà, donc vous voyez, tout ça, ce sont des équilibres à trouver dans nos liens entre des polarités diverses, même... très difficile à articuler, et je pense que c'est ça qui fait la vie de nos liens. J'ai fini.